Suite à la deuxième invasion de l'Irak, le musée d'archéologie de Bagdad a été pillé, ce qui représente une perte considérable pour toute l'humanité. Heureusement, la plupart des objets volés avaient déjà livré leurs secrets. Parmi ceux découverts à Babylone, les plus importants sont des petites tablettes recouvertes d'inscriptions cunéiformes. Une dizaine d'entre elles, appelées les chroniques babyloniennes, ont été publiées pour la première fois en 1887 et contiennent le récit des principaux événements concernant les affaires internes de Babylone. Parmi les faits consignés, plusieurs confirment des récits bibliques comme par exemple l'assassinat du roi assyrien Sennachérib, la chute de Ninive, capitale assyrienne, la victoire de Nabuchodonosor sur l'Égypte à la bataille de Carchemish, la prise de Jérusalem et la fin du royaume de Juda, et aussi la chute de Babylone. Or, et contrairement à sa réputation, Babylone n'a pas fait qu'abriter des despotes les uns à la suite des autres, puisque le prophète Daniel y a également vécu. Je commence à lire le premier chapitre du livre qui porte son nom. La troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, partit pour assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Jéhoiakim et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor les fit transporter au pays de Shinéar, dans le temple de son dieu, et il déposa les objets du culte dans la salle du trésor de son dieu. Versets 1 et 2. Nous sommes à cheval sur les années 606 et 605 avant Jésus-Christ et il s'agit de la troisième année de Jéhoiakim selon la manière des Babyloniens de compter le règne d'un roi. En effet, il ne prenait pas en compte l'année d'accession au trône. Par contre, il s'agit de la quatrième année selon le système de datation juif qu'utilise Jérémie, le prophète. Éliakim, le fils aîné du bon roi Josias, fut placé sur le trône de Juda par le pharaon Necho, qui changea son nom en Jéhoiakim. Il abandonna l'Éternel, s'adonna à l'idolâtrie et persécuta le prophète Jérémie. Pendant ce temps, Nabuchodonosor écrase le pharaon à Carchemish en 605 avant Jésus-Christ. Ensuite, il décide de punir Jéhoiakim, allié à l'Égypte. C'est la première attaque contre le royaume de Juda. Jérusalem capitule et Nabuchodonosor enchaîne Jéhoiakim pour l'emmener à Babylone, mais pour des raisons qu'on ignore, il lui fait grâce, le laisse à Jérusalem comme son vassal et l'assujettit à un tribut. Par contre, il déporte un contingent d'Israélites dont Daniel fait partie. Trois ans plus tard, Jéhoiakim, qui compte encore sur l'appui de l'Égypte, se révolte. Il est alors attaqué par ses voisins et des bandes de Chaldéens à la solde de Nabuchodonosor, qui arrive en personne en 597 et fait le siège de Jérusalem. Pendant cette deuxième attaque, Jéhoiakim meurt dans des circonstances mystérieuses et est jeté hors de Jérusalem où il est enterré sans tambour ni trompette et comme s'il avait été un âne selon une prophétie à son sujet. Son fils Jéhoiakim, alors âgé de 18 ans, lui succède, mais après seulement 3 mois de règne, il se rend à Nabuchodonosor qui l'emmène prisonnier à Babylone en même temps qu'un second contingent d'aristocrates qui inclut le prêtre et prophète Ézéchiel. Sédécias, oncle de Jéhoiakim, est alors placé sur le trône, mais lui aussi finit mal, très mal même, car en 587, Nabuchodonosor détruit Jérusalem et le temple, égorge ses fils devant lui, puis lui fait crever les yeux et l'emmène à Babylone où il mourra. C'est donc lors de la première invasion de Juda que Nabuchodonosor déporte Daniel et emporte une partie des objets sacrés du temple à Babylone, sa capitale, qui, dans la terminologie antique, s'appelait pays de Shinéar. Le roi met alors ses trésors dans le temple de sa divinité principale qui se nomme Bel ou Marduk. La conquête de nations était considérée comme la preuve de la supériorité du dieu du vainqueur sur les divinités des vaincus. Avec cette intrusion d'une nation païenne dans Jérusalem commence le temps des nations dont a parlé Jésus et qui consiste en une perte de souveraineté partielle ou totale d'Israël sur le territoire que l'Éternel avait donné à Abraham. Cet état ne cessera que lorsque le Messie reviendra sur terre pour établir son royaume 2000 ans. Je continue le texte. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Versets 3 et 4. Littéralement, Ashpenaz est appelé chef des eunuques. C'était un haut fonctionnaire et le grand chambellan qui avait la charge de tout le personnel du palais de Nabuchodonosor. La présence de ces jeunes Israélites à la cour du roi était un accomplissement d'une prophétie que je lis. « Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés. Ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Fin de citation. Soit dit en passant que dans l'Antiquité, le nom d'eunuque était appliqué à tout officier servant auprès d'un roi et pas seulement à des eunuques qui avaient été châtrés. En effet, dans la Genèse, il est écrit que les Madianites avaient vendu Joseph en Égypte à Potiphar, eunuque de Pharaon. Or, on sait que ce personnage n'était pas un eunuque au sens propre du terme, puisqu'il avait une femme et qu'il en était jaloux. Les jeunes Israélites de famille noble n'avaient pas été emmenés à Babylone en qualité de prisonniers ou d'otages pour garantir l'obéissance du roi Jéhoiakim, car lorsqu'il s'est révolté, ils n'en souffrirent aucune conséquence. Ils étaient simplement destinés au service du roi, car il était alors, dans les us et coutumes, que quelques-uns des plus nobles représentants des peuples conquis servent le roi victorieux. Ce dernier pouvait aussi attendre de ces étrangers plus d'indépendance et de véracité que de la part de ses propres mages et conseillers. Ces jeunes gens étaient des adolescents car on sait que les Perses commençaient l'éducation des enfants nobles à 14 ans afin qu'ils soient prêts à servir le roi à 17 ans. Je continue le texte. Ces jeunes gens, sans défaut physique et de belle apparence, devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capables d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Verset 4. Quand on fait son marché, on s'efforce de choisir de beaux légumes. Eh ben, c'est pareil pour le grand chambellan. Les Israélites qui seront formés aux affaires de l'État vont être triés sur le volet. Ça ne colle pas très bien avec la philosophie actuelle où tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Mais c'était comme ça. Au niveau physique, ces jeunes gens ne doivent pas avoir la moindre infirmité ou handicap et posséder une apparence susceptible de plaire au grand public. Je sais que dans le temps, on choisissait les hôtesses et les stewards de cette façon. Aujourd'hui, peut-être aussi, mais il ne faut pas le dire. Au niveau mental et intellectuel, ces jeunes doivent être brillants et désirer acquérir de nouvelles connaissances dans tous les domaines. Au point de vue social, ils seront avenants et courtois de façon à pouvoir représenter avantageusement leur maître. L'expression « la langue et la littérature des Chaldéens » ne désigne pas, comme on pourrait le croire, la langue en usage à Babylone au temps de Nabuchodonosor. En effet, le chaldéen de cette époque était très proche de l'hébreu et en quelques mois, des jeunes gens intelligents pouvaient le maîtriser sans aucune difficulté. Ce qu'ils vont devoir apprendre, par contre, est une littérature ancienne et révolue et uniquement connue de la caste sacrée des mages appelée les Chaldéens. Ces hommes étaient les dépositaires de traditions anciennes qui dataient du temps des populations qui occupaient l'embouchure de l'Euphrate et du Tigre avant les Chaldéens. Ils parlaient l'Akkadien et les jeunes Israélites devront l'apprendre parce que c'est dans cette langue que sont écrits les livres sacrés, les formules magiques, les règles d'interprétation des songes, les recueils d'astronomie et de physique, etc. Cette littérature représentait une bibliothèque considérable dont nous possédons de nombreux fragments qui ont été déchiffrés. Contrairement à ce que pense le commun des mortels, tous les écrivains sacrés n'étaient pas de condition humble. Moïse était versé dans toute la sagesse des Égyptiens, et à son époque, on savait déjà que la terre était ronde, et on connaissait la distance entre la terre et le soleil. En plus de sa sagesse, Salomon était à la pointe du progrès dans toutes les disciplines scientifiques de son époque. Lui-même était une véritable encyclopédie. Quant à l'apôtre Paul, c'était probablement l'un des hommes les plus instruits de son temps, car les cultures et philosophies grecques, romaines et juives n'avaient pas de secret pour lui. Je continue maintenant le texte. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belshazzar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abednego. Verset 5 à 7. Selon une coutume en vigueur dans l'Antiquité, ces jeunes gens reçoivent des noms nouveaux, ce qui faisait partie de l'immersion culturelle. D'une part, c'était plus commode pour tout le monde. Même aujourd'hui, certains immigrants adoptent un nom passe-partout, facile à comprendre et à épeler. À un moment donné, et à cause de ses occupations, mon oncle a changé son nom alsacien à consonance et écriture germanique parce que ses amis et clients n'étaient pas capables de le prononcer ou de l'écrire correctement. En second lieu, les Babyloniens ont donné de nouveaux noms à Daniel et à ses amis pour des raisons idéologiques. C'était un lavage de cerveau, en quelque sorte. L'objectif était de pousser les jeunes recrues à abandonner leurs racines religieuses et à s'attacher aux dieux de leur pays d'accueil. De toute la noblesse de Juda qui fut choisie, seuls Daniel et ses amis sont mentionnés parce que c'est d'eux qu'il sera question dans la suite du livre. On leur attribua des noms babyloniens, mais avec un sens religieux. Daniel, qui veut dire « Dieu est mon juge », est appelé Belshazzar, qui signifie « que le dieu Bel », sous-entendu, protège sa vie. Anania, qui veut dire l'Éternel fait grâce, est appelé Shadrach, qui pourrait signifier « je crains beaucoup un Dieu ». Michaël, qui veut dire « qui est égal à Dieu », est appelé Meshach, qui pourrait signifier « je suis peu de valeur devant mon Dieu ». Azaria, qui veut dire « l'Éternel est mon soutien », est remplacé par Abednego, qui signifie « serviteur de Nego ou Nebo, le dieu de la végétation ». Mais ces changements de nom n'eurent pas sur ces jeunes gens l'effet escompté. La tentative de faire d'eux des Babyloniens dans leur tête, comme dans leur accoutrement et comportement extérieur, fut un échec. Je continue. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Verset 8. Ces 4 hommes acceptaient de servir l'empereur, mais à certaines conditions. Étant donné que les mets de la table royale étaient préparés par des païens, ils étaient impurs. D'autre part, les Babyloniens mangeaient de tout, et donc des animaux déclarés impurs par la loi de Moïse. De plus, la viande provenait d'animaux ayant été d'abord sacrifiés aux idoles, et le vin leur était lui aussi dédié. Par contre, les légumes étaient saints, n'ayant pas été consacrés à de faux dieux. Si Daniel et ses amis avaient accepté le vin et la viande, ils se seraient rendus coupables d'idolâtrie. La devise « à Paris fait comme les Parisiens » ou « à Babylone fait comme les Babyloniens » est une philosophie très prisée de nos jours, mais qui ne convenait pas du tout à des Juifs qui voulaient demeurer fidèles à l'Éternel. Daniel et ses amis faisaient partie de cette minorité d'Israélites justes qui correspond aux paroles de l'apôtre Paul quand il dit « de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce ». Ceci dit, et contrairement aux Juifs fidèles qui étaient dans l'obligation d'observer les règles cérémoniales et alimentaires de la loi de Moïse, Aujourd'hui, les croyants ne sont pas concernés. Je lis deux passages du Nouveau Testament. Ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments. Car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce qu'on vous servira sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Fin de citation. Je continue le texte. Et Dieu accorda à Daniel la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Verset 9. L'attachement scrupuleux de Daniel aux préceptes de la loi de Moïse dès son jeune âge et alors qu'il se trouve au milieu des séductions d'une cour païenne est le fruit de l'éducation pieuse qu'il avait reçue suite aux réformes religieuses entreprises par le bon roi Josias avec l'appui du prophète Jérémie. L'Éternel honore la confiance et la fidélité de Daniel en orientant souverainement les autorités païennes en sa faveur. Un proverbe dit « Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel ». Il le dirige à son gré. Dieu n'a pas permis que Daniel soit persécuté, mais s'est arrangé pour qu'on le respecte. Plus tard, il n'empêchera pas qu'il soit attaqué. Mais ce sera en vue de son élévation finale. D'une manière ou d'une autre, Dieu honore ceux qui l'honorent. Le récit de Daniel rappelle beaucoup celui de Joseph, fils de Jacob. Ces deux hommes apparaissent l'un au commencement et l'autre à la fin de l'histoire d'Israël, et tous deux représentent le peuple élu fidèle à l'Éternel à la cour de rois païens. Daniel comme Joseph est irréprochable dans sa conduite. Tous deux sont doués d'une sagesse surnaturelle, possèdent le don d'interpréter les songes et arrivent aux plus grands honneurs. Je continue le texte. Mais le chef du personnel lui dit « Je crains mon seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il m'en rendrait responsable et je le payerais de ma vie à cause de vous. » Verset 10. On comprend les hésitations du grand chambellan car il risque sa peau dans cette affaire. Il aime bien Daniel, mais se sent coincé entre le marteau et l'enclume. Je continue. Alors Daniel parla à l'intendant, auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Anania, de Michaël et d'Azaria. Il lui proposa « Fais donc un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. » Versets 11 et 12. Bien que, dans un premier temps, le chambellan ait refusé la suggestion de Daniel, ce dernier ne se laisse pas abattre et va porter son cas devant l'intendant dont il dépend. Le mot « légume » veut dire « ce qui est semé ». Donc, pour éviter de participer à l'idolâtrie babylonienne, les 4 juifs veulent devenir végétariens. Seulement, à moins d'un miracle, ils vont en pâtir physiquement. Mais Daniel compte sur une intervention de Dieu et ce n'est pas vraiment présomptueux de sa part parce qu'il sait très bien que pendant 40 ans dans le désert, le principal aliment des Israélites avait été la manne qui ressemblait à des grains de coriandre blanche et qui avait un goût de beignet au miel. Et le peuple de Dieu s'en est fort bien porté. D'ailleurs, avant d'entrer dans le pays promis, Moïse a dit aux Israélites « Oui, l'Éternel t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. » De cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Daniel savait qu'en obéissant à la loi, il honorait Dieu. Je continue le texte. « Tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. » L'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Versets 13 et 14. Comme l'intendant était sous l'autorité du chambellan, il a dû obtenir son aval. De toute façon, ces deux hommes ne prenaient pas de gros risques parce que 10 jours à ne manger que des légumes n'est pas suffisant pour affecter négativement la santé au point où ça se voit. Je continue. Et au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur fit servir seulement des légumes. Versets 15 et 16. Test réussi. Comme Daniel et ses amis se portent mieux et non plus mal que les autres, on leur permet de continuer leur régime végétarien. Dès le début du livre, on constate que Dieu a posé sa bonne main sur ces jeunes hommes parce qu'ils avaient résolu en leur cœur d'obéir à ses commandements. Cette histoire est une leçon pour la nation d'Israël qui avait été sévèrement punie à cause de sa désobéissance persistante. Mais c'est aussi une leçon pour moi, qui, comme eux, peut choisir d'en faire à ma tête. Mais alors, je n'échapperai pas non plus aux conséquences.